Hyder's Cottage se trouvait à environ 3 miles de Winston's Lodge. Heureusement, le chemin était relativement peu chaotique. Le carrosse s'immobilisa devant une demeure neuve. C'était le type même d'un manoir se voulant moderne et ayant l'arrogante intention d'étaler la nouvelle richesse des propriétaires. Cela les rendait d'autant plus ridicules. Chaque fois qu'elle y venait, Florence ressentait un vague dégoût. Il ne convenait cependant pas d'exprimer son sentiment. C'est pourquoi Florence se présenta naturellement courtoise. Maintenant que la diligence s'était immobilisée, elle patienta quelques instants, espérant presque naïvement que l'un des jeunes hommes offrirait son aide. Son espoir, cependant, resta vain. Sans suite, ces messieurs n'admiraient que leur admirable personne et leur admiration égoïste était admirablement tournée vers eux-mêmes, une contemplation qu'ils espéraient être partagée. Car assurément de nombreux admirateurs seraient admiratifs s'ils avaient assez de discernement pour les admirer. Autrement dit, ces gentils hommes montraient le vilain défaut qu'est la vanité. Bien trop occupée à se contempler que de l'assister, elle descendit, dignement accompagnée, de son valet. Il est étrange que M. Tellman, fort léthargique pour la soutenir, se précipita littéralement pour être un hôte remarquable. Doté d'une physionomie laide et d'un visage suffisant, ce monsieur arborait toujours des complets généralement hideux et bien trop amples. Son discours s'incarnait par une profusion de propos insipides. Pour compléter ce portrait attrayant, il se croyait naturellement supérieur et lui adressait ses propos en termes condescendants. Il convient, en tant que narratrice guère objective, de reconnaître que par la fortune, par la naissance et par l'éducation, Florence le surpassait très légèrement. « Je suis enchantée, mademoiselle, de vous distinguer parmi nous ce soir, et fort soulagée, car je craignais votre absence. Votre frère ne part-il pas demain? Nous avons tant souffert de votre absence cet été, comme tous les étés d'ailleurs. Ma sœur partagera naturellement mon sentiment. Eh bien, voilà une pensée charmante. J'ai noté que votre façade différait de celle du printemps, dit-elle en se hasardant à dévier la conversation. Vous êtes observatrice, Miss Winston. En dépit de vos rarissimes présences, vous distinguez toujours ces petites modifications. Je suis perpétuellement éblouie par votre finesse. Vous êtes pleine de complaisance et de bienveillance. Monsieur, voilà un judicieux usage des synonymes. Il eut un silence à cette répartie, certes ironique. Florence tentait de le désarçonner. Pourtant, c'est dommage. Monsieur Tellman n'en saisit point la subtilité. Elle aurait dû le prévoir. Monsieur Tellman et la perspicacité reposaient dans deux galaxies diamétralement opposées. Curieusement, il fut touché, croyant même percevoir le début d'une sympathie. Il se sentit invité à poursuivre la conversation et à l'ennuyer davantage. L'embellissement intérieur vous éblouira davantage, vous verrez. J'espère que cela vous plaira beaucoup. Nous venons à peine de les achever. Ces modifications ont été conçues et réalisées par des architectes modernes. Dieu sait à quel point la modernité est belle et fascinante. Si vous le désirez, je peux vous faire visiter les lieux ce soir. Voilà si longtemps que vous nous avez honorés de votre présence.
Assurément.
J'en serai alors très heureux. Ce que je dois vous partager est fort sérieux. Toutefois, vous n'ignorez point ma timidité. Je doute d'être capable d'oser. » Puis, il se tut. Florence savoura ce silence, espérant que cet entretien lassant soit enfin terminé. Elle le souhaitait, muet à jamais. Cette pensée absurde l'amusa, mais en croisant son regard suppliant, la jeune fille lui demanda d'oser. « Vous êtes si bienveillante. En fait, nous sommes bien heureux de recevoir ma parenté. En effet, nous avons appris le séjour de nos cousins de Londres pendant toute la saison automnale. Quelle heureuse et ravissante nouvelle! Ils sont infiniment supérieurs par un goût raffiné et une éducation excellente. Ils exprimaient le souhait de nous revoir, et du reste, la campagne est excellente pour leur santé. » Les yeux de Florence s'écarquillèrent, trahissant une surprise inattendue. Elle s'attendait à de banales élucubrations, mais cette annonce la laissa stupéfaite. Les habitants de Pytude ne brillaient ni pour leur érudition, ni pour la finesse de leur manière. Assurément pas. La région comprenait une incroyable concentration d'esprits étroits, mais guère conscients, barbants, sans réaliser l'ennui qu'ils procuraient, et peu brillants, se présumant en fait aussi remarquables que des membres distingués de la société. Quelle idée catastrophique! Son interlocuteur continua à déblatérer des inspidités en face de cette bombe qui venait d'éclater dans cet univers hiérarchisé et ritualisé qu'était la société convenable du 19e siècle. Les nobles évoluaient entre eux et ne s'humiliaient jamais en se mêlant à ces pauvres bourgeois, complaisants dans leur médiocrité ignorée. Ces deux mondes absolument antagonistes ne devraient que parfois se frôler, mais au grand jamais ne devraient se joindre lors d'une saison. M. Tellman, après un monologue dont on en ignore la portée, l'interpella ainsi. « À ce sujet, pourrais-je vous solliciter les deux premières danses? Voilà la deuxième très mauvaise nouvelle de la soirée. Il s'agissait d'un bal. Non pas que Florence abhorrait la danse, mais se coltiner un bien piètre et loquace partenaire était détestable. Chère lectrice, je vous entends. Et vous avez tout à fait raison. Monsieur Tellman était une magnifique concentration de ces deux défauts qu'il menait à leur paroxysme. Il s'agit d'un bal. Je suis bien surprise. Je croyais, à tort, qu'il s'agissait d'une soirée amicale. C'est regrettable. Je ne suis pas vêtue pour l'occasion. Cela pourrait offusquer vos parents, qui doivent être des personnes très élégantes. Il serait sans doute préférable que je demeure assise. Ne dites point pareille sottise. Vous êtes mademoiselle, comme coutume, l'élégance incarnée, même si certains jugeraient cela exagéré, surtout pour une personne de condition inférieure. Florence l'écouta, impassible alors qu'il réitéra. J'appréhende, en revanche, une réaction de mes cousins. Je crains qu'ils trouvent nos rassemblements rustres et sauvages. Assurément, votre présence leur sera appréciable. Même si vous leur êtes inférieurs, ils souffriront plaisamment votre compagnie. Ils apprécient certainement les personnes modestes et déférentes, qui ne s'élèvent pas au-dessus de leur rang. Même si vous n'êtes point nantis, votre amabilité et votre grâce dissimuleront ces désagréments. La supériorité de nos pères ne saurait que nous laisser muets. Je n'ai fort heureusement guère cette prétention, reconnut-elle ironiquement sans qu'il en comprît la subtilité. Maintenant, je vous prie de m'excuser, car vous devez remplir vos obligations. Vous n'êtes que modestie, renchérit-il, et ne notant pas sa non-réponse. Soyez assurée, Miss Winston, que je vous présenterai en termes élogieux. Ce simple échange illustrait magnifiquement ce que Florence voulait éviter, une complaisance malmenée, une stupidité incroyable et un vocabulaire mal employé. Et ce soir, une digne assemblée se joindrait à eux, pauvres campagnards se complaisant dans leurs ignorances et leurs mauvais goûts. Tous ces ingrédients ne pouvaient mener qu'au désastre. Les bals ruraux étaient grotesques. Tous seraient ridicules. Les cousins de M. Tellman les mépriseraient. D'abord en colère contre la situation, elle finit par se ressaisir. C'était son choix de venir. Florence regagna doucement la salle commune et fut introduite en même temps que les cousins de M. Tellman. En réalité, il n'y avait que trois cousins des Tellman, tous frères, qui ne daignèrent un regard obligeant pour Gustave Tellman. L'aîné, Georges, présomptueux d'une richesse considérable, était marié à un splendide spécimen de toilette et d'élégance étudiée qui se prénommait dorénavant Madame Ware. M. Ware ne semblait guère s'ennuyer avec une telle compagne. Peut-être était-il aussi sot, défaut certainement dissimulé par une excellente éducation. L'admiration mutuelle et superficielle que chacun entretenait pour l'autre fut éventuellement, pour l'instant, satisfaisante. Certes, l'apparence physique agréable, la condition sociale et la richesse permettaient à cette union une certaine félicité. Afin de renforcer leur rang, deux autres dames, les sœurs de Madame Ware, étaient présentes, accompagnées d'un homme au regard impassible. Les jeunes femmes étaient particulièrement jolies, Naturellement, elles n'admiraient que leur propre personne ou les messieurs très fortunés. Leur toilette, d'un luxe extrême, était brodée avec une finesse remarquable. Toutes trois avaient les yeux bleus, un détail qui leur conférait une apparence douce, en total décalage avec leur personnalité. L'une avait la chevelure dorée, et les deux autres sœurs, les cheveux cuivrés avec des teintes écarlates. Deux hommes fort beaux et grands âgés d'une vingtaine d'années, disposant une crinière abondante, châtaine et bouclée, dont chacune d'entre nous rêverait, surtout votre narratrice, dont la chevelure fine n'est pas notamment transcendante, accompagnait Georges. Même si l'apparence des frères jumeaux Wyer charmait fortement, la personnalité ne séduisait toutefois guère. En effet, ces derniers se conformaient chacun aux attitudes de l'autre, si bien qu'ils partageaient exactement les mêmes traits de caractère, les mêmes imperfections et une absence quasi totale de qualité. Ils ne rêvaient que de deux choses, séduire toutes les demoiselles jolies qu'ils croiseraient et satisfaire, par le fait même, leur vanité. Eux seuls semblaient être heureux de se trouver à Warwick et s'imaginaient déjà des rencontres heureuses. D'ailleurs, la campagne n'était-elle pas des verts pâturages de l'illettrisme? Par ailleurs, d'après leur présomption, ces demoiselles seraient ainsi des vides littéraires, un corps dans lequel se dissimulait un esprit très malléable et accommodant aux gentilshommes. Enfin, des femmes, facilement séduites par des propos tirés d'auteurs peu articulés. Je tiens à dire, à titre de narratrice, que certains hommes n'ont le charme que des phrases déjà formulées. Ils se croient spirituels et profonds lorsqu'ils débitent « l'amour n'a pas d'âge » et charmant quand il tente un « Est-ce que tu t'es fait mal en tombant ?» Pour revenir à l'aîné, il n'exhalait, lui, que l'humble satisfaction de s'être marié avec une si magnifique femme et si riche. Ce trophée de beauté et de futilité ne pensait qu'à elle-même ainsi qu'à ses luxueux chiffons. Quand leur beauté fanerait, l'indifférence suivrait, puis peut-être de ténébreuses aventures. Un homme plus grand que ses comparses, à l'allure impassible, intelligent, mélancolique et froid, se tenait aussi parmi eux. Son regard marron observait, calculait et analysait chaque membre de la société. Il en sembla remarquer aisément la rusticité et parut presque déçu. Vraisemblablement, avait-il espéré connaître une personne sensée? Il contrastait avec les membres de la compagnie. Des demoiselles le remarquèrent rapidement. Il était tout de même indépendant et riche. Néanmoins, son mutisme les troubla et surtout, ses réponses brillantes les sidérèrent. Ces dernières, rarement vives, eurent la vivacité de saisir l'inutilité de leur intérêt. Les cousins Wyer parvinrent à faire oublier complètement l'homme. Une rumeur bienheureuse circula sur l'étendue de leurs fortunes respectives et généra un fort engouement. Ces aimables, prévenants, affables et riches personnages étaient nettement préférables à l'ironique et impassible gentilhomme. Comme on respectait la famille Winston, on présenta Florence rapidement. Monsieur George Ware était l'aîné des frères. Ensuite venaient les deux frères, Jonathan et John. Également les jeunes femmes, Madame Tracy Ware, Andrea et Judith. Andrea semblait la plus éveillée des trois. L'homme impassible, M. Edward Williams, était le cousin des demoiselles Huggs. Après les présentations d'usage, Florence redouta que M. Tellman ne renouvelle son offre. Les musiciens commencèrent à prendre place et les deux hôtes ouvrèrent officiellement le bal. Toujours répugnée par l'idée d'accompagner l'hôte, Florence ne remarqua pas l'observation des jumeaux. Séparés physiquement, leurs caractères si semblables les conduisirent tous deux à la même conclusion. Les frères la trouvaient fort plaisante. C'est ainsi que John s'approcha discrètement, la faisant sursauter. « Mademoiselle, veuillez m'excuser. Mon intention n'était ni de surprendre ni d'effrayer la Vénus que vous personnifiez. J'étais simplement venue vous présenter mes respects et vous solliciter ces deux premières danses. » La requête était habilement amenée. Ce jeune homme détenait une certaine culture générale, sur la mythologie grecque de base, ajouterons-nous, qui lui permettait de paraître spirituelle. Florence, silencieuse, voulut lui répondre, mais fut interrompue par l'autre Ware. « Je dois vous féliciter, frère, » appuya-t-il sur ce mot, « pour votre notable requête. En revanche, je pense percevoir chez Miss Winston un désir évident de récusation. Je m'avance bien sûr, mais son cœur semble vouloir valser avec ma personne. Ne soyez point irrévérencieux envers des sentiments aussi nobles. Par égard pour Miss Winston, laissez-la satisfaire son plus tendre désir. « Je vous demande pardon, » s'introduisit Florence, légèrement froissée. « Je sais répondre par moi-même et, en dépit de mes émotions pures, ciel, Jonathan, toutes ces années perdues à méconnaître votre destinée, celle où votre don de devin pourrait enfin éclaircir les méandres du cœur et des pensées féminines. » J'en suis presque émue. Trêve de plaisanterie, coupa John dans sa moquerie. J'ai invité Miss Winston, qui allait acquiescer à ma proposition. Alors que les insultes fusaient entre les jumeaux, sans égard à la cible de leur chamaillerie, Florence n'était plus simplement mécontente. Elle était irritée. Personne ne semblait s'intéresser à son opinion. Car oui, elle en avait une. Étonnant, n'est-ce pas? Florence ne souhaitait absolument pas danser avec l'un ou l'autre. Les arguments échangés étaient grotesques. Ils oscillaient entre les émotions que l'un ou l'autre lui prêtait et les intentions cachées qu'elle-même ignorait, mais qu'un gentilhomme prétendument clairvoyant avait miraculeusement deviné. Bien sûr, c'est connu. L'homme ne méconnaît pas ce que ressent une femme, car qui est-elle pour former une opinion sur ses émotions? Monsieur Tellman s'inséra dans le conflit, ce qui offusqua Florence davantage. Si l'espoir de glisser un mot avait été jusqu'alors faible, il devint alors vain. Aucune de ses oreilles masculines ne semblait disposée à l'écouter. « Mais, très cher cousin, vos litiges sont vains. Examinez ces lieux. De nombreuses charmantes demoiselles s'y trouvent. Du reste, je les lui ai déjà sollicitées, et elle me les a agréées. » Florence abhorrait ce moment. Cette dispute l'ennuyait profondément. Voilà que les musiciens commençaient à jouer. Tandis que plusieurs couples dansaient gaiement, elle était assise sur un fauteuil déjà lasse. N'étant pas la seule à observer cette situation, M. Williams, éloigné, désapprouvait la conduite des jeunes hommes. Malgré son air apathique, Florence percevait dans son regard une pitié humiliante. Elle patienta un peu. Ces messieurs s'exprimaient librement, ponctuant leurs arguments déficients de Miss Winston. Ne souhaitant pas entendre son nom évoqué aussi irrespectueusement, Florence prit congé auprès de Miss Tellman en prétextant un vague mal de tête. Olivia Tellman ne s'en souciait guère. Sa beauté l'absorbait bien trop pour daigner s'intéresser à une demoiselle si quelconque. Étrangement, M. Williams comprit ses intentions et lui proposa en peu de mots de l'escorter. Il lui présenta son bras et l'accompagna, la soutenant avec courtoisie lorsqu'elle se hissa. Dans la voiture, Florence fut envahie par des émotions contradictoires. Elle n'arrivait pas à départager son opinion. Elle n'était pas pleinement dégoûtée. L'amabilité de M. Williams l'avait surprise. Quelle courtoisie face à son infortune et à sa situation gênante. Florence ne songeait plus à ce débat absurde, convaincu qu'il ne s'était probablement même pas aperçu de sa disparition. Telle scène n'entraînait que du mépris chez les autres demoiselles qui murmurèrent avec force pour que Florence les entende sur l'inconvenance dont elle était si souvent victime. Car, disait-elle, on reconnaît la respectabilité d'une lady à ses relations avec les gentilshommes. Toujours imprégnée de ses sentiments contradictoires, Florence gagna sa chambre, l'esprit embrouillé.